Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Bertie Bourdon, mais aussi Mélanie Chalandon, Margot Lery, dont Nicolas Sendé, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Nasser Moussaoui. Nouvelle série donc consacrée à la gouvernance en temps de Covid. Nouvelle série donc, on va s'intéresser à nos responsables politiques et à nos régimes aussi politiques. On s'intéressera à Xi Jinping, passé de coupable désigné à vainqueur autoproclamé. On parlera de Joe Biden au chevet d'une Amérique malade, puis de la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, dont beaucoup saluent la réussite dans cette crise sanitaire et qui vient d'ailleurs d'être reconduite dans ses fonctions pour un deuxième mandat. Mais pour commencer, direction l'Allemagne et sa chancelière qui, depuis le début de la crise, travaille pour construire un consensus, mais qui doit faire face, elle aussi, à des difficultés. Angela Merkel, l'esprit de consensus mis à l'épreuve, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Chers concitoyens, au plus tard, cette semaine, nous le savons, nous sommes maintenant dans une phase très grave de la pandémie de coronavirus. Le nombre de nouvelles infections augmente à pas de géant chaque jour. La pandémie se propage à nouveau rapidement, plus vite qu'au début il y a 6 mois. L'été, relativement détendu, est terminé. Nous traversons maintenant des mois difficiles. Comment sera l'hiver? Comment nous passerons Noël? Tout cela sera décidé dans les jours et les semaines à venir. Nous décidons tout cela par nos actions. Et je voudrais vous dire ce que je crois que cela signifie. Nous devons tout faire maintenant pour que le virus ne se propage pas de manière incontrôlable.
Voilà, message d'Angela Merkel du 24 octobre dernier. Depuis le début de la pandémie, l'Allemagne se démarque de ses voisins européens par un niveau relativement faible de victimes du coronavirus. Un peu plus de 11 000 décès sur 83 millions d'habitants. À tel point d'ailleurs que la France, beaucoup plus touchée, elle, y envoie maintenant des malades pour soulager ses hôpitaux. Mais si on a voulu voir dans cette spécificité une forme de couronnement du modèle allemand, fédéral, décentralisé, les choses ne sont peut-être pas si simples. En effet, face à la deuxième vague, Angela Merkel a annoncé le 28 octobre dernier des mesures restrictives pour tout le mois de novembre. Fermeture des bars et restaurants à partir de 23h dans les zones à risque, un élargissement du port du masque, preuve que la deuxième vague inquiète fortement Outre-Rhin. Mais c'est aussi bien moins que ce qu'elle aurait souhaité. Derrière ce nouveau plan d'effort national se cache aussi la plus grande difficulté à construire du consensus avec les différents Länder, comme on l'a vu lors du sommet Corona du 14 octobre dernier, duquel aucun accord n'a pu sortir tant les ministres présidentes se sont accrochées à leurs prérogatives en matière de sécurité et de santé. Merkel s'était d'ailleurs dite frustrée et désabusée face à cette incapacité à réconcilier des positions trop disparates. Alors le système fédéral allemand serait-il, dans cette crise en tout cas, en train de montrer ses limites? Angela Merkel parviendra-t-elle à reprendre la main alors qu'une seconde vague déferle sur l'ensemble de l'Europe, d'une vague à l'autre? Quels sont les facteurs qui peuvent expliquer que l'Allemagne ait été moins touchée que le reste de l'Europe? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin d'abord Thomas Vider, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin, Thomas Vider. Vous êtes journaliste, le correspondant du journal Le Monde à Berlin et vous êtes en duplex chez notre correspondant à Berlin, qu'on salue, Ludovic Piétonu. Avec nous également par téléphone, Hélène Bière de la Croix, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment, Hélène Bière de la Croix, d'être avec nous ce matin par téléphone. Vous êtes professeur d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à la Sorbonne et vous avez signé il y a peu de temps un ouvrage avec Andreas Wirsching, Ennemi héréditaire, point d'interrogation, un dialogue franco-allemand. Je voudrais qu'on revienne peut-être sur cette intervention d'Angela Merkel du 24 octobre dernier qui s'est tenue donc quelques jours après le sommet Corona que j'évoquais, donc avec les 16 ministres présidents des Länder. C'est un sommet qui a duré plusieurs heures avec d'un côté ceux qui dénonçaient une forme d'hystérie et qui refusaient de prendre des mesures plus strictes et puis de l'autre ceux qui voulaient aller vers un durcissement des mesures. Et on a vu que Merkel a eu la plus grande difficulté à obtenir un accord sur ses directives nationales. Pour sa part, elle est en réalité favorable, Angela Merkel, à un durcissement des mesures, mais on a bien vu que compte tenu du système allemand, au fond, elle n'a pas la main pour imposer sa propre vision dans cette crise au Länder récalcitrant. On voit là, Thomas Vider, toutes les limites de ce système fédéral allemand.
Oui, c'est-à-dire que pour nous, Français, c'est quelque chose d'assez baroque, le fonctionnement institutionnel et politique de l'Allemagne. Depuis le début de l'épidémie, voilà comment les choses se passent en deux mots. Angela Merkel réunit par visioconférence à peu près tous les 15 jours, 3 semaines, les 16 ministres présidents des Länder et avec eux négocie, ça se passe généralement le mercredi, pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures, une sorte de feuille de route qui doit définir les mesures anti-coronavirus pour les 15 jours, 3 semaines suivants. Et il est vrai, vous avez raison, que parfois ça se passe plutôt pas trop mal. C'était le cas il y a 15 jours, juste toute fin octobre, où ils ont réussi, face à la deuxième vague qui était incontestable, à s'accorder sur un cadre. Mais parfois, notamment quand il y a l'impression que les choses vont un peu mieux ou qu'il n'y a pas cette perception d'un danger imminent, c'était le cas, vous l'avez rappelé, 15 jours avant, mi-octobre, c'est plus difficile parce que vous avez certains Länder où la situation est plus grave, plus préoccupante, qui eux poussent à des mesures plus restrictives, et d'autres, généralement dans l'est de l'Allemagne, où la situation est moins sérieuse, moins préoccupante sur le plan sanitaire, où aussi l'extrême droite est plus forte, et l'extrême droite c'est aussi les mouvements anti-masques, et dans ces Länder, eh bien, il y a souvent davantage de réticence à imposer des restrictions, et le rôle de la chancelière est d'essayer d'accorder les violons et d'éviter une trop grande cacophonie.
Ce qui n'est pas toujours facile. Hélène Mire de la Croix, c'est vrai que ce modèle fédéral, on a pris l'habitude de louer son efficacité, de saluer sa grande flexibilité. Là, il semble peut-être que pour cette crise sanitaire en particulier, il montre aussi une forme de faiblesse. En tout cas, il empêche de prendre des mesures plus strictes lorsque les considérations, les critères scientifiques l'imposent. Est-ce que on entend aujourd'hui peut-être du côté de Berlin ces critiques autour de ce modèle sans le remettre en cause? Est-ce que certains considèrent que oui, en effet, ce modèle fédéral est en train peut-être de montrer ses limites, en tout cas peut-être pas aussi adapté qu'on le pense à cette crise? On en parle?
Alors la discussion en Allemagne sur le fédéralisme, elle est permanente, j'allais dire, elle revient toujours. Il y a eu des réformes il y a quelques années, régulièrement on essaie de peaufiner la chose. Actuellement, même ce matin, dans les médias allemands, on s'interroge pour savoir si des défauts du système électoral américain n'auraient pas aussi quelque chose à voir avec les défauts du système allemand. Donc c'est une question qu'on se pose régulièrement en Allemagne. Mais la question que vous posez est intéressante parce que il y a 6 mois, quand nous étions au même endroit et que nous observions la façon dont l'Allemagne gérait extrêmement bien la crise sanitaire, une des explications était précisément le fédéralisme, parce que on estime que avec la déconcentration ou la délocalisation, si vous voulez, la régionalisation de la prise de décision, on a eu une capacité de réaction beaucoup plus forte en Allemagne, une capacité à identifier les premiers clusters, à isoler les personnes malades, à organiser la collecte d'informations et à la faire remonter. Ça, c'était vrai. Aujourd'hui, quand on critique le fédéralisme dans cette crise sanitaire, on critique pas exactement la même chose. Parce que les atouts que je viens d'évoquer et qu'on a loués au mois de mars, avril, ils sont toujours là. C'est vrai que ça marche mieux parce que la politique de santé, elle est faite au niveau régional et on est donc beaucoup plus près du terrain, si vous voulez. Ce qui est en cause aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la cacophonie, c'est-à-dire le fait que vous prenez votre voiture, vous vous déplacez de quelques kilomètres, vous allez dans un autre land et les règles sont différentes, ce qui a créé entre les Länder non seulement une compétition à celui qui aurait les meilleurs résultats, c'est une chose qu'il ne faut jamais oublier, mais des tensions au sein même de la population, avec beaucoup de médias aussi qui ont médiatisé cela avec des exemples, en disant « oui, c'est injuste, si je viens de telle lande et que je vais dans un hôtel dans un autre lande, on va me refuser l'accès ». Donc il y a une inégalité. Donc vous voyez, c'est pas la même question qu'on pose sur le fédéralisme, mais je crois que le problème se pose actuellement, c'est que l'Allemagne a décidé en mars, ça je crois qu'il faut toujours le rappeler, de ne pas avoir recours à un appareil législatif qui existe en Allemagne, qui est la loi d'état d'urgence catastrophe, et qui là donne au système fédéral des pouvoirs plus importants, et on a préféré les lois sur la protection contre les infections, et ça c'est une compétence régionale. Et une fois qu'on a pris cette décision au départ, d'une certaine façon, on était condamnés à devoir négocier et à trouver des accords pour que tout le monde aille à peu près dans le même sens.
Thomas Vider, je voudrais vous faire réagir sur ce que disait à l'instant Hélène Miard de la Croix à propos de cette mesure effectivement de restriction de la mobilité, parce que c'est vrai que le mois dernier, lorsqu'on a il y a une dizaine de landers, je crois que c'est 11 exactement, qui ont interdit l'accès aux habitants de zones enregistrant plus de 50 infections pour 100 000 habitants, il y a beaucoup des landers concernés, des personnes qui habitent dans ces zones-là, qui ont vu ça comme une grande inégalité et qui ont considéré qu'il fallait évidemment y répondre. Alors, d'un côté, on loue le fédéralisme et on appelle ça flexibilité quand tout va bien, et de l'autre, on appelle ça, devient d'un coup, en période de crise, des inégalités. On voit bien comment ce modèle peut se transformer. D'un côté, c'est un atout, mais là, de l'autre, pour cette mesure-là, en tout cas, ça a été très mal ressenti par l'opinion, Thomas Vider.
Oui, ça a été mal ressenti pour deux raisons. La première, c'est ce que vient de dire très bien Hélène Miard de la Croix, c'est-à-dire une question d'incompréhension. C'est vrai que, en plus, cette décision qui avait été prise à la veille des vacances de la Toussaint, au moment où quand même pas mal de familles projetaient de partir, alors c'était très compliqué de savoir, par exemple, si on habitait Berlin, qui était donc zone à risque, parce que le taux d'incidence dépassait les 50, eh bien, si vous vouliez vous rendre près de la mer Baltique, dans le land de Mecklembourg-Poméranie occidentale, vous n'aviez pas le droit, ou vous alliez avoir un test négatif de 72 heures. Si vous alliez dans le land voisin, c'était encore une règle différente. Enfin bref, ça créait une forme d'incompréhension et d'insécurité. La deuxième chose, c'est que un certain nombre de ces décisions ont été cassées par les tribunaux administratifs. Et là, ça pose une autre question aussi qui s'ajoute à cette difficulté, qui est que vous avez la question de l'acceptabilité politique des mesures et de leur légitimité juridique, j'ai envie de dire. Et on voit aussi depuis le début, l'Allemagne n'est pas la seule dans ce cas, mais que si la chancelière Angela Merkel, les ministres présidents des Länder avancent parfois aussi avec sur des œufs, et en prenant des mesures qui sont globalement plutôt moins fortes, moins restrictives qu'en France, c'est aussi parce que
ils ont peur de se faire retoquer sur le.
Oui, ouais. C'était arrivé par exemple en avril-mai, quand l'Allemagne avait décidé d'une quarantaine obligatoire pour les personnes qui revenaient de l'étranger, et un tribunal administratif, je crois que c'était celui de Basse-Saxe, a cassé assez rapidement cette mesure en considérant que c'était contraire à la loi, et ensuite les autres Länder ont suivi, et finalement cette mesure n'a pas été appliquée contrairement à ce qu'avait prévu le gouvernement fédéral. Donc il y a toujours aussi cette question de la légitimité de la légalité finalement de ces mesures qui rentrent en compte.
Il y a la question de la légalité, mais il y a aussi la question de l'acceptabilité, disiez-vous, Thomas Vider. Hélène Maire de la Croix, c'est vrai que quand on regarde les choses, alors les sondages montrent que on salue globalement l'action d'Angela Merkel dans cette crise sanitaire. Je crois que plus de 70% de l'opinion allemande se dit favorable à la réponse. Et en même temps, on voit qu'il y a aussi des difficultés, des colères même, en réalité. Il y en a eu sur cette loi restreignant les mobilités, il y en a eu sur les avec ces mouvements anti-masques, on s'en souvient. Mais jusqu'où, au fond, l'Allemagne aujourd'hui est préoccupée par les effets collatéraux de ces mesures, de ces inégalités aussi qu'elles entraînent? Est-ce que, finalement, Angela Merkel a aussi une urgence à répondre à cette pression de l'opinion, au-delà de la question purement scientifique, sanitaire, qui évidemment impose de serrer à nouveau la vis? Jusqu'où est-ce qu'elle est peut-être sensible à cette question de l'opinion qui est en train de monter là?
Alors, elle l'est nécessairement parce qu'elle a autour d'elle, dans son parti et dans son gouvernement, des forces qui, depuis le début, insistent beaucoup sur l'importance de ne pas porter un coup fatal à l'économie allemande, et que il y aurait peut-être une disproportion entre les résultats que l'on espère en matière sanitaire et les dommages qui vont être portés à l'économie allemande. allemande. Donc ça, c'est, elle en est consciente depuis le début, c'est pas seulement une question d'opinion. L'opinion, elle intervient, je dirais, de deux façons. Elle intervient jusqu'à, alors il n'y a pas très longtemps, parce qu'en fait, les chiffres en Allemagne ont monté récemment. Jusqu'alors, en comparaison européenne, l'Allemagne était très très peu touchée. Et il y a eu, beaucoup plus que dans les autres pays, un mouvement de protestation individuelle et qui s'est organisé aussi collectivement, j'allais dire parce que les gens n'ont pas rencontré dans leur vie familiale, dans leur vie amicale ou sociale, le virus. C'est-à-dire que, alors que des pays comme l'Italie ou la France, la probabilité qu'on connaisse quelqu'un qui était malade, ou quelqu'un qui soit même décédé, ou qu'on ait entendu parler, etc., est plus importante, en Allemagne, c'est l'effet le paradoxal, si vous voulez, des meilleurs résultats. Il y a beaucoup de gens qui estiment en effet que on sacrifie peut-être l'économie et les libertés fondamentales pour quelque chose qui n'est pas si grave que ça, sans aller jusqu'aux excès de ceux qui nient l'existence même du virus ou qui disent que c'est une invention du capital et des industries pharmaceutiques. Ce qui est important dans ce que vous avez dit tout à l'heure sur les tribunaux, c'est l'Allemagne est un pays qui aime le droit. J'allais dire plus qu'ailleurs. C'est le droit qui décide en Allemagne. La notion de l'égalité du traitement des citoyens et la question du respect des droits fondamentaux est absolument dominante. Et dans les décisions qui ont été prises par les tribunaux, qu'ils soient régionaux ou lorsque le débat arrive au niveau fédéral, c'est toujours cette question de l'égalité de traitement. L'égalité de traitement, elle est constitutionnelle. Donc, elle entre en contradiction avec la possibilité que régionalement, on prenne des dispositions. Et ça devient une discrimination de refuser l'accès à un hôtel à une personne du fait de son lieu d'habitation et non pas du fait de sa positivité ou pas, enfin de ça, du fait qu'il soit malade ou pas.
On va revenir, Thomas Wieder, dans un instant sur la capacité ou non, là maintenant, d'Angela Merkel à reprendre la main et au fond à répondre à ce caractère un peu disparate, pour pas dire carrément chaotique. Mais il y a un point quand même qui m'étonne, Hélène Mire de la Croix, sur ce que vous venez de nous expliquer, parce que on a quand même l'habitude, nous, en tout cas depuis la France, de voir une Angela Merkel toujours allante, toujours extrêmement optimiste. On se souvient évidemment que quand on a ouvert les portes à quasiment 1 million de réfugiés, ce qu'a dit Angela Merkel, c'est « on va y arriver », ce qui était quand même un défi absolument colossal. Et là, on a une Angela Merkel qui est beaucoup plus repliée, beaucoup plus pessimiste. Elle parle de catastrophe du siècle, de calamité. Alors même que vous le dites, il y a eu jusqu'ici 11 000 morts seulement en Allemagne, même si c'est évidemment très important. Elle n'hésite pas, par exemple, à faire le parallèle avec la grippe espagnole, qui a fait quand même, elle, en revanche, entre 20 et 50 millions de morts. Est-ce qu'il n'y a pas là un pessimiste un peu inédit du côté de Angela Merkel et pour quelle raison? Et ensuite, je vous donne la parole, Thomas Wieder. Hélène Mire de la Croix.
Alors, je pense que notre vision d'une Angela Merkel toujours allante et toujours optimiste est un peu faussée. D'accord. Je pense que le moment Merkel de l'ouverture des frontières, parce qu'on a appelé l'ouverture des frontières, c'est-à-dire ne pas fermer les frontières aux migrants, a été un moment très particulier. Globalement, Angela Merkel ne passe pas pour quelqu'un de allant, elle passe pour quelqu'un d'extrêmement posé, d'extrêmement sachlich, comme on dit en allemand, c'est-à-dire rationnel, qui prend les éléments, qui prend la réalité, qui n'utilise jamais un mot de plus. Si elle en a besoin de 5, elle n'en dira pas 6. Et donc, le fait qu'elle prenne la chose de manière avec gravité correspond tout simplement à son réalisme. Alors, le fait qu'elle considère que c'est une catastrophe avec un nombre de morts et des effets collatéraux similaires à ce qu'on a pu avoir dans le passé, là aussi, il faut penser qu'elle ne pense pas seulement aux Allemands, elle pense aussi aux Européens et elle pense aussi à l'économie allemande et aux effets dramatiques que peut avoir cette pandémie chez les voisins, les amis, les collaborateurs, les partenaires et les acheteurs des produits allemands. Donc je ne suis pas sûre que ce qu'on prend comme du pessimisme soit vraiment une rupture. D'accord. Je pense qu'elle est à la hauteur, comme une scientifique, de ce qu'elle constate, et elle estime que, comme on ne réduit pas les libertés autant qu'ailleurs en Allemagne, il faut qu'on appelle au sens de la discipline, à la raison de ses concitoyens, elle leur dit restez le plus possible chez vous, réduisez les contacts sociaux le plus possible.
Thomas Wieder, vous êtes d'accord, Merkel que je décrivais comme pessimiste, non, Merkel réaliste, nous dit Hélène Mire de la Croix, vous êtes d'accord?
Absolument, réaliste, sérieuse, grave et scientifique. Ça a été rappelé par Hélène Millard de la Croix. Angela Merkel est une physicienne. Elle comprend visiblement peut-être plus que la moyenne des gens ce que veulent dire les modèles des courbes d'infection, etc. De sorte qu'elle en fait même, elle partage même d'une certaine façon ses lumières avec ses concitoyens à plusieurs reprises lors des conférences de presse qui ont suivi les réunions dont je parlais tout à l'heure, mensuelles ou bimensuelles avec les ministres présidents des Länder. On a vu Merkel faire de longs dégagements sur les courbes, notamment le 28 septembre, c'était assez intéressant. Elle est arrivée en disant, voilà, j'ai fait un modèle, selon le modèle, en observant le nombre de nouveaux cas qu'il y avait à telle et telle date depuis le début de l'été, eh bien, je pense que nous pourrions arriver à 19 200 avait-elle dit, c'était très précis, 19 200 nouveaux cas quotidiens avant Noël. À ce moment-là, tout le monde s'était dit, mais d'où est-ce que Merkel sort ce chiffre? Est-ce qu'elle n'est pas justement, comme vous le disiez tout à l'heure, Florian, un peu trop pessimiste? Et puis finalement, on a vu que ce chiffre de 19 000 nouvelles infections par jour était dépassé depuis la semaine dernière, avec la barre des 20 000 nouveaux cas.
Mais donc, c'est elle qui avait fait le modèle, attendez que je comprenne bien, c'est elle qui avait fait le modèle.
Oui, c'est ce qu'elle avait dit. Oui, c'est ce qu'elle avait dit. Alors, évidemment, à partir de modèles existants, mais disons que elle avait présenté les choses comme étant aussi personnelles. Et je pense que ça est un élément qui explique aussi la crédibilité dont elle jouit, c'est-à-dire dans cette affaire, c'est-à-dire qu'on est ici, elle gère cette pandémie, évidemment, en femme politique, mais aussi en scientifique. Et ce qui, d'une certaine façon, désidéologise les choses. Et là, la différence est absolument flagrante avec la rhétorique, par exemple, de notre président, du président français, Emmanuel Macron. C'est peut-être quelque chose que nos auditeurs ne savent pas, mais mi-mars, quand Emmanuel Macron a déclaré depuis l'Élysée, nous sommes en guerre, avec toute cette rhétorique, effectivement, une forme de métaphore guerrière qu'il a filée tout au long de son intervention. Merkel est intervenue, je crois que c'était deux jours avant ou deux jours après, en disant à la télévision, là, son slogan, c'était c'est sérieux, c'est sérieux. Vous voyez, quelque chose de très, finalement, de très froid, de très concret, mais il n'y avait aucune métaphore un peu lyrique, comme l'avait employé le président français. C'est deux styles très différents, mais surtout, ce qui est vraiment fort et ce qui a marqué les esprits à l'époque, c'est que en 15 ans depuis son arrivée au pouvoir, c'était la première fois, si l'on exclut les vœux de fin d'année, que Merkel intervenait à 20h à la télévision. Et donc le fait même que la chancelière allemande, qui est là depuis 15 ans, que ce soit sa première intervention depuis 15 ans, finalement, elle n'avait pas besoin d'utiliser des mots particulièrement forts. Le fait même qu'elle intervienne pour la première fois depuis 15 ans à la télévision était le signe que c'était sérieux et elle n'avait pas besoin d'en dire beaucoup plus.
Ouais. Hélène Millard de la Croix, au-delà des styles évidemment très différents, mais aussi des manières de prendre des décisions politiques. D'un côté, effectivement, il y a ces réunions hebdomadaires entre les différents Länder où parfois on arrive à prendre des décisions et puis parfois non, parce que le consensus, on n'arrive pas à le construire. C'est vrai que du côté de Paris, on est habitué à avoir des décisions qui sont prises de façon très verticale, avec les scientifiques d'un côté, avec le Conseil de défense de l'autre. Parfois même, les ministres sont pas forcément associés. Donc on voit bien qu'il y a là, évidemment, deux manières de gouverner extrêmement différentes. Mais si j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur la question du réalisme de Merkel, si vous la dites si réaliste, c'est qu'en réalité, elle s'appuie sur la réalité, précisément. Pardonnez-moi, mais il faudrait peut-être qu'on se penche un tout petit peu sur cette réalité sanitaire. Parce que d'un côté, on a des agences de santé régionales qui, visiblement, sont en train de mettre la pression sur les responsables des différents Länder en disant qu'ils ont de plus en plus de mal à gérer la crise sanitaire. Et puis de l'autre, on lit dans les journaux français que nous autres, quand on n'a plus de place dans nos hôpitaux, on envoie désormais nos malades du côté de l'Allemagne qui, elle, gère parfaitement les choses. Alors, qui comprendre? Si on est sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'où les agences régionales sont véritablement en difficulté aujourd'hui pour répondre à cette crise sanitaire?
Alors, en fait, il y a deux aspects dans cette question. Quand les agences régionales de santé tirent la sonnette d'alarme, elles ne disent pas exactement qu'on a atteint les limites. Elles signalent qu'elles ont du mal à gérer la tâche et à assumer la tâche qui leur a été donnée, c'est-à-dire de suivre exactement toutes les lignes de contamination. Puisque ça, c'est vraiment ce que l'Allemagne avait choisi comme modèle dès le mois de février, même avant que les cas se déclarent en Europe, quand on a vu ce qui se passait en Asie. L'idée était de tester très rapidement, d'isoler les gens et de reconstituer les contaminations pour éviter la formation de clusters qui s'éparpillent après dans la nature, comme ça a pu être le cas en France ou en Italie. Et donc, quand les agences régionales de santé disent « nous arrivons au maximum », c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le personnel pour téléphoner aux gens, de vérifier qu'ils sont bien isolés, leur redemander un test au bout de 5 jours, etc., ce qui avait été fait très bien. Ça ne veut pas dire exactement la même chose que nous avons atteint les capacités d'accueil et à l'hôpital et en réanimation, puisque là, on en est encore loin en Allemagne, et de ce fait, les hôpitaux allemands peuvent accueillir des malades français en montrant une solidarité européenne qui marcherait dans tous les sens. Mais ça revient un peu à ce que Thomas Wieder expliquait juste avant. Ce que Angela Merkel a expliqué avec ses 19 900 cas, c'est ce que tous les scientifiques connaissent, c'est-à-dire une courbe exponentielle. C'est-à-dire qu'on peut, il y a non seulement une accélération, mais une amplification des phénomènes, et que donc on peut supposer que dans 10 jours, dans 15 jours, dans 20 jours, on en arrivera à une situation très grave. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. L'Allemagne a encore beaucoup de place à l'hôpital et beaucoup de place en réanimation. Ça a d'ailleurs été toute une discussion pendant l'été parce que on avait aussi beaucoup préparé de lits supplémentaires, de respirateurs supplémentaires, etc., qui n'ont absolument pas servi. Et il y a eu des voix en Allemagne à la fin de l'été qui ont dit « mais finalement, tout ça pour ça, on a trop fait ». Aujourd'hui, on se rend compte que l'Allemagne est suréquipée par rapport à ses voisins européens, mais que si en effet la courbe exponentielle continuait, là, eh bien, ils n'accueilleraient plus les malades français, mais ils devraient s'occuper des malades allemands.
Thomas Wieder, sur cette réalité sanitaire, aujourd'hui, les hôpitaux allemands parvient à gérer le flux de patients, il n'y a pas besoin à l'intérieur de l'Allemagne de faire des transferts d'un Länder à l'autre, tout va bien pour le moment.
Alors, je vais éviter de donner trop de chiffres, mais il y a actuellement à peu près encore 7 à 8 000 lits disponibles, vides en Allemagne, en unité de soins intensifs et réanimation, ce qui laisse quand même effectivement encore de la marge. Le problème, et Hélène Mire de la Croix vient de l'évoquer, ce n'est pas le problème, la question matérielle, c'est la question du personnel. La semaine dernière, les responsables de l'association allemande de soins intensifs et de médecine d'urgence ont tiré la sonnette d'alarme en disant que dans les chiffres qu'ils font remonter, il y a une plateforme en Allemagne qui s'appelle le Divi, qui est un registre qui liste les disponibilités, les taux d'occupation en unité de soins intensifs. Les responsables de cette association ont dit « le problème, c'est qu'on nous signale, les hôpitaux et les cliniques nous signalent les lits qui sont vides. Or, le problème, c'est qu'un lit vide n'est pas forcément un lit disponible. Parce que s'il n'y a pas le personnel pour s'occuper du malade qui est dans ce lit, on ne peut pas utiliser ce lit. » Et là, effectivement, c'est le gros problème. Il y a une évaluation qui a été faite par la Fédération des hôpitaux allemands qui dit qu'il y a à peu près 4700 places qui devraient être occupées par les personnels pour que tous ces lits soient effectivement opérationnels. Et on a vu en fin de semaine dernière, je crois que c'était jeudi, notamment les responsables de l'hôpital de la Charité à Berlin, lancer un appel pour que de jeunes soignants, jeunes retraités soignants ou bien des étudiants en médecine viennent, se préparent à venir s'occuper des malades en cas de fort remplissage et de présaturation des unités de soins intensifs. Et donc effectivement, on est aujourd'hui en Allemagne, dans cette situation un peu particulière où il y a beaucoup de lits vides, mais où, comme on connaît maintenant, on sait maintenant que les cas d'aujourd'hui seront en partie ceux qui seront dans 2-3 semaines hospitalisés en unité de soins intensifs, on se prépare. En gros, fin novembre, début décembre, a des difficultés. Et c'est ça qui attend l'Allemagne, effectivement.
Voilà, on se prépare, et on se prépare en particulier du côté de la Bavière, l'un des Landes les plus peuplés, les plus riches ici, mais aussi les plus touchés par le coronavirus. Je propose d'écouter Markus Söder, qui est donc le président de Bavière.
Certaines personnes parlent toujours du coronavirus qui nous attaque comme si nous étions en guerre contre le coronavirus. Ce n'est pas une guerre que nous menons. Nous sommes face à un virus très patient. Si nous restons déterminés et si nous restons disciplinés, nous pourrons échapper au pire. Ce n'est pas compliqué. C'est ce qui s'appelle la prévention. Et c'est pourquoi notre volonté ne doit pas faiblir et nous devons continuer à travailler dans ce sens. Et cela s'applique à la Bavière dans son ensemble. Nous n'avons pas raison sur tout, et les concepts que nous appliquons, nous devons sans cesse les réajuster. Nous sommes dans un apprentissage permanent. Nous avons jusqu'à présent été très prudents, et cela doit continuer.
Voilà, donc Markus Söder qui se dit en apprentissage, et en même temps, visiblement, l'apprentissage fonctionne bien, puisque lorsqu'on regarde les études d'opinion, on voit que 90% de personnes considèrent, des administrés hein, de Markus Söder, considèrent qu'il fait bien les choses. Hélène Mière de la Croix, là aussi, on va regarder les choses peut-être au niveau de la Bavière, c'est doublement intéressant, parce que d'abord, il semble que ce Markus Söder réponde très bien au défi et que par ailleurs il est l'un des prétendants pour la succession d'Angela Merkel. Il y a eu un échange très virulent visiblement entre le maire de Berlin et Markus Söder au moment de ce fameux sommet Corona dont je parlais tout à l'heure, Müller reprochant à Söder d'instrumentaliser la crise à des fins politiques. Alors est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, Hélène Mière de la Croix, de quoi est faite cette réponse sanitaire de Söder et est-ce que le maire de Berlin a raison lorsqu'il dit qu'il l'utilise dans la perspective de cette course à la succession pour Merkel, Hélène Mière de la Croix?
Alors je crois qu'il y a à la fois une logique régionale, c'est-à-dire Markus Söder comme ministre-président, c'est-à-dire chef du gouvernement reposant sur la majorité au Parlement régional qui veut agir correctement pour satisfaire son électorat et éviter de se trouver aux prochaines élections dans une situation un peu dangereuse pour son parti qui traditionnellement tient ce land, la CSU. Cette situation qui a été quand même un petit peu présente lors des dernières élections. Donc, il y a cette ligne régionale, il essaie d'être à la hauteur dans un land qui est très varié, si je peux dire. Il y a des régions, alors c'est un petit peu comme on imagine la Bavière en France, il y a des régions très paysannes, si vous voulez, d'agricoles, vertes, mais il y a aussi des centres urbains extrêmement dynamiques. Il n'y a pas que Munich, il y a aussi donc Nuremberg, Regensburg, enfin, il y a beaucoup de diversité dans la population et il a essayé de maintenir une ligne qui tienne tout le monde en jouant sur aussi le on va y arriver et sur la discipline. Il a poussé un tout petit peu le bouchon loin, un peu trop loin, parce qu'il a récemment fait dresser les cheveux sur la tête de tout le monde en disant que le problème des contaminations était qu'elles se passaient maintenant dans l'espace privé et que puisque s'il y avait des gens qui n'étaient pas raisonnables, on allait pouvoir demander au voisinage de, entre guillemets, dénoncer leurs voisins qui organiseraient chez eux des petites fêtes d'anniversaire ou des soirées.
Ça n'a pas dû beaucoup plaire, ça.
Alors ça a plu peut-être à une partie de son électorat, mais quand même pas à tout le monde, parce que c'était très clairement un appel à la délation, dont on sait que pas seulement en Allemagne, mais dans beaucoup de pays européens, il rappelle de mauvais souvenirs. L'autre question est dans quelle mesure Söder essaie de se profiler comme un des successeurs possibles de Merkel, qui serait le plus à même de gérer. Bon, là c'est évident, il y en a à peu près trois en lice. Hein. Il y a lui, il y a le ministre-président de la Rhénanie-Nord-Westphalie, c'est-à-dire la région de la Ruhr, au bord du Rhin,
Armin Laschet,
voilà, qui est d'un type totalement différent, qui est calme, posé, prudent, etc. Un petit peu, si vous voulez, dans l'habitude de Merkel. Et puis, il y en a un troisième qui a un petit peu moins de chance, mais qui essaie de tirer l'épingle du jeu. Mais en gros, c'est entre Laschet et Söder que ça se joue. Et il y va donc du profil national, là, fédéral, hein, que se donnent ces deux chefs de gouvernement régionaux qui prétendent prendre la suite en passant d'abord l'étape qui est le congrès de la CDU, c'est-à-dire le parti de Madame Merkel, où doit être élu le prochain patron du parti, qui, par définition, par tradition, est candidat pour devenir chancelier. Et donc là, c'est pour ça que c'est assez juste, hein, ce que le maire de Berlin a reproché à Söder, c'est d'utiliser cette crise pour se mettre en scène, pour jouer l'homme fort, pour jouer celui qui gère, et qui gère de manière un peu, alors pas martiale, puisqu'il dit qu'il ne faut pas parler de guerre, mais de manière un peu à poigne, dirons-nous, à la différence de Armin Laschet, qui lui l'a joué beaucoup plus en cohésion, en recherche de consensus, en travail sur le terrain.
Thomas Vider, alors justement, avec la perspective de cette succession, qui est-ce que vous voyez le mieux placé, hein, Armin Laschet, qui lui est plus sur le terrain, construit paisiblement le consensus, enfin essaye de le faire, ou un Markus Söder, donc beaucoup plus, lui, à poigne, pour reprendre l'expression d'Hélène Mière de la Croix. Vous avez signé un article récemment en disant que, en qualifiant cette succession de Merkel de chaotique, et c'est vrai que c'est assez compliqué, dans ce chaos, lequel des deux vous voyez le mieux placé?
C'est assez compliqué de vous répondre parce que la vie politique allemande, qui pendant si longtemps a paru relativement prévisible par rapport à la vie politique française, montre depuis quelques années que elle peut réserver de grandes surprises. Et l'une des
au fait qu'on pensait tous à un moment que ça allait être celle qu'on appelle AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer, qui allait succéder à Angela Merkel, et ça n'a pas été le cas puisqu'elle a démissionné en février dernier. C'est ça la référence, j'imagine.
Oui, voilà. Ouais. Et elle est toujours à la tête de la CDU en attendant que, effectivement, ouais, comme l'a rappelé Hélène Mière de la Croix, un nouveau président soit élu. Non, mais tout ça pour dire que personne ne s'attendait à ce que Markus Söder acquiert ainsi une stature de potentiel chancelier à la faveur de cette pandémie. Il faut savoir que Markus Söder a longtemps eu l'image, a longtemps cultivé plutôt une fibre populiste. Il avait fait une campagne pour les élections bavaroises en 2018 très très à droite, où il avait chassé sur les terres du parti d'extrême droite AfD. Après, le résultat avait été relativement décevant. On avait vu que les écologistes avaient fait des bons scores en Bavière, donc il a totalement changé de braquet en se présentant parfois comme plus écolo que les écolos, et en ayant un ton beaucoup plus centriste, beaucoup moins clivant. Et j'ai envie de dire que ce qui a été aussi assez spectaculaire pendant les mois qui viennent de s'écouler, c'est que Söder a affiché une entente parfaite avec Angela Merkel, louant les qualités de la chancelière, alors même que 2 ans auparavant, pendant la campagne bavaroise, il avait refusé que Merkel vienne le soutenir pendant sa campagne, lui préférant le chancelier autrichien Sébastien Kurz, à l'époque en coalition avec l'extrême droite. Donc Markus Söder est un politicien caméléon extrêmement doué, qui sent l'air du temps. Et là, il a senti, je pense, effectivement, qu'il pouvait utiliser peut-être, enfin d'abord il fallait qu'il gère la pandémie en tant que ministre-président de Bavière, mais que cette ligne, une ligne de fermeté, en prenant parfois des décisions, des restrictions avant même les autres lenders, pour montrer qu'il était particulièrement prudent, une ligne qui correspond à celle de la chancelière et qui se distingue de celle d'Armin Laschet en Rhénanie du Nord-Westphalie, qui était effectivement plus coulant, qui voulait déconfiner plus tôt, confiner plus tard. Il a fait le pari que cette ligne marchait. Pour l'instant, il faut bien dire que dans les sondages, ça fonctionne pour lui, puisqu'une majorité d'électeurs, de sympathisants conservateurs pensent qu'il est celui qui a la plus grande légitimité ou la plus grande stature pour devenir chancelier. Mais encore faudra-t-il que le futur président de la CDU accepte que ce soit un Bavarois qui soit le candidat des conservateurs à la chancellerie. Or, dans l'histoire, depuis 1949, ça n'est arrivé qu'à 2 reprises. En 1980, c'était le Bavarois Franz Josef Strauß qui avait été candidat pour les conservateurs. En 2002, ça avait été le Bavarois Edmund Stoiber. Et les deux fois, il n'a pas été élu. Donc, si vous voulez, c'est pas non plus si facile pour les conservateurs allemands de désigner le chef de la CSU bavaroise comme étant leur chef de file. Mais après tout, l'histoire n'est pas obligée de se répéter.
Oui, effectivement. Avant de passer du côté de la Suède, Hélène Maire de la Croix, sur ce point, est-ce qu'il vous semble que la CDU et celui qui la dirigera demain sera enclin à laisser Markus Söder devenir chancelier, ou ça vous semble peu probable?
C'est toujours très difficile de faire des pronostics. Alors d'abord, il faut qu'on voit comment va se dérouler le congrès de la CDU. Là,
on a été repoussé encore.
On a juste évoqué Armin Laschet, mais il y a Friedrich Merz, hein, qui est une personnalité un peu clivante au sein de la CDU, mais qui a lui des ambitions très nettes, qui est un chrétien démocrate, plutôt libéral dans l'approche de la politique économique en particulier, et qui a des chances et qui estime qu'il a de l'avenir. Et vu sa personnalité, je le vois assez mal accepter que la CDU, qui reste quand même le principal parti en termes de voix, laisse, comme l'a dit Thomas Wieder, un Bavarois mener la campagne collective. Donc il faut bien rappeler, la CDU, c'est des chrétiens démocrates dans l'ensemble de l'Allemagne, sauf en Bavière, et les chrétiens démocrates en Bavière s'appellent les chrétiens sociaux, et c'est la CSU qui est un parti à la fois régionaliste et en même temps plus conservateur et très moderne dans un certain nombre de positions, qui pose un problème à un certain nombre d'Allemands qui ne sont pas bavarois. Ça, c'est aussi une réalité qu'il ne faut pas oublier. Aussi bon que peut-être le candidat issu de la Bavière pour emmener ensemble CDU et CSU, eh bien, quand on est tout à fait dans le nord de l'Allemagne, au bord de la mer, on a du mal à se sentir représenté par une personne à fort accent, avec un insistant beaucoup sur le folklore régional qui est très très en vogue actuellement en Bavière. Et ça, ce sont des différences, je dirais même des ruptures qui existent en Allemagne, qui sont historiques. Hein, on peut remonter très très loin. Il suffit de relire Thomas Mann, les Buddenbrook, pour avoir. On nous montre comment on ridiculisait les Bavarois quand on était à Lübeck dans le Nord. Tous ces éléments font partie toujours d'une réalité allemande qui poserait probablement un vrai problème à Markus Söder. C'est pourquoi j'ai beaucoup de mal à vous donner un pronostic.
Une réponse,
il faut déjà qu'on voit ce qui va se passer lors du congrès de la CDU qui a été repoussé de décembre au mois de janvier.
Ouais, à la mi-janvier. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y aura bataille clairement politique entre le futur chef de la CDU et Markus Söder. Voilà, cette bataille, elle n'était peut-être pas prévue au départ. C'est peut-être une des conséquences, en tout cas, de cette crise sanitaire. On va s'intéresser à la Suède, parce que dès le mois de mars, la Suède s'est singularisée par rapport au reste de l'Europe en ne confinant pas sa population. Les écoles sont toujours restées ouvertes, les magasins aussi, et le port du masque n'a jamais été imposé. Plutôt que sur des mesures coercitives, le gouvernement et les agences de santé ont préféré la responsabilité individuelle. Alors, est-ce que face à la deuxième vague, cette stratégie est toujours tenable? On va poser la question à Johan Aukant. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales. Alors, le cap des 6000 morts vient d'être franchi en Suède. Et le niveau des contaminations est lui aussi en train d'augmenter singulièrement. Il y a eu un doublement des cas la semaine dernière par rapport à la semaine précédente. En fait, quand on rapporte au nombre d'habitants, on a une situation en Suède qui est assez comparable à la France, en nombre d'habitants, rapporté au nombre d'habitants, j'entends. Est-ce que on garde parfaitement son flegme en Suède, ou est-ce qu'on s'inquiète et on se dit que peut-être il va falloir serrer la vis?
Bon, mais effectivement, on s'inquiète raisonnablement, mais tout en gardant le même flegme que jusqu'alors. Et ce qui est un fort contraste avec ce dont vous venez de parler dans le reste de l'émission, c'est que il faut quitter le terrain politique pour une bonne part, et retourner vers le terrain de l'agence sanitaire qui gère très largement cette épidémie depuis le début, avec ces épidémiologistes qui sont maintenant très connus, Anders Tegnell en premier lieu et puis ses adjoints. Et de fait, le gouvernement, le politique semble très en retrait, hein, dans cette épidémie.
Parce qu'il n'a pas d'outil, Johann Ockham, c'est-à-dire qu'il ne peut pas décider d'un confinement, d'un déconfinement, d'un couvre-feu, du port du masque, toutes ces mesures-là, il ne peut rien faire.
C'est pas qu'il peut rien faire, à vrai dire, c'est qu'il y a une division traditionnelle du travail, que ces agences, ces administrations sont très autonomes, qu'elles ont effectivement beaucoup de pouvoir, et que par ailleurs, le gouvernement en a relativement peu, et c'est là que la critique a porté durant la première phase de l'épidémie. C'est vrai que au moment où les choses devenaient graves, très graves, eh bien, on a reproché aux politiques le fait de se replier derrière l'agence sanitaire et de ne pas prendre ses responsabilités. Tout ce qui a été mis en place sur le plan politique, c'était la possibilité de fermer un certain nombre de lieux publics au printemps, au pic de l'épidémie. Pour l'instant, c'est pas revenu vraiment à l'ordre du jour. Alors, on parle par exemple de fermer des stations, de ne pas ouvrir des stations de ski dans une région de la Suède qui est assez touchée actuellement. Mais c'est en fait l'entreprise qui gère ces stations, qui et le gouvernement régional dans une certaine mesure, qui sont à la manœuvre beaucoup plus que l'État. Et pour l'instant, les mesures qui ont été prises dans le sens d'un petit peu plus de rigueur à l'égard du virus, elles sont prises par l'agence sanitaire en collaboration avec les territoires, et ça reste de l'ordre des recommandations.
Oui, mais c'est ça qui est assez étonnant, c'est que ça reste très modeste. On a une situation sanitaire qui se dégrade. Par exemple, on n'est toujours pas obligé de porter le masque. On a du mal à comprendre la logique, rationnelle, scientifique. C'est-à-dire comment on tient cette position-là du côté des autorités de santé. Est-ce que en réalité, on vise, sans vraiment le dire, la stratégie de l'immunité collective, c'est-à-dire l'idée qu'au bout d'un moment, il y aura tellement de personnes qui seront touchées que le virus circulera beaucoup moins, jusqu'à devenir carrément inactif. On a du mal à comprendre cette position d'un point de vue scientifique.
Non, je ne crois pas que c'est une stratégie, entre guillemets, si ça existe vraiment, qui a été visée, parce que d'abord, ils se sont aperçus assez rapidement que finalement, l'immunité était assez faible, qu'il y avait des possibilités de recontamination. Vous avez sans doute suivi l'affaire qui concerne pour l'instant le Danemark, où on a éliminé des millions de visons parce qu'on a trouvé une mutation du virus qui se repropage du côté humain. Et donc là, évidemment, ça pourrait faire obstacle à l'efficacité d'un quelconque vaccin. Donc, on sait que ça, c'est pas forcément une porte de sortie, et puis que la Suède a exposé de nouveau à une augmentation en termes de cas. Mais c'est vrai que Tegnell, par exemple, prend des positions depuis le début sur le port du masque, qui semble à rebours de tout ce qu'on nous dit en France. Et moi, je suis pas épidémiologiste, mais j'aurais tendance à demander aux épidémiologistes français, essayez d'accorder vos violons sur ce point, parce que là, clairement, on a des conseils, des recommandations qui sont tout à fait inverses, en disant que finalement, le port du masque, quelque part, rassurer les personnes au point qu'elles ne respecteraient plus, par exemple, les distances de sécurité entre elles. Et donc, on se réfugierait quelque part derrière ce moyen un peu commode qui, en général, et c'est ça leur argument principal, est très mal utilisé.
Non, mais clairement, il y a un peu des signaux contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté, on dit que la situation est plus grave, et dans le même temps, on va rouvrir les maisons de retraite alors qu'on les avait laissées fermées depuis avril. On va remonter la limite maximale de spectateurs pour les événements culturels et sportifs. On voit bien qu'il y a vraiment des signaux contradictoires. Si on revient sur le champ vraiment politique, Johann Ockham, j'entends que Anders Tegnell, le chef de l'agence de santé, jouit d'un très fort soutien au sein de l'opinion. Il n'empêche qu'il y a quand même des critiques dans le paysage politique, et en particulier du côté de l'extrême droite. Il n'empêche aussi qu'au-delà de cette crise sanitaire, il y aura des effets économiques et sociaux derrière tout cela. Une baisse de la croissance, une aggravation évidemment sociale pour les moins favorisés. Est-ce que vous pensez que, à terme, cette extrême droite pourrait bénéficier de cette crise sanitaire? Est-ce qu'il faut s'y attendre? Ça fait des années qu'on voit ces démocrates suédois, qui est un parti d'extrême droite, percer comme ça dans le paysage politique. Il faut s'attendre à ce que ce coronavirus, finalement, les propulse sur la scène politique et peut-être les mette en mesure de diriger un gouvernement, pourquoi pas?
Non, c'est très difficile à dire. Je ne pense pas que ce sera nécessairement en lien avec le virus lui-même. Il y a un degré de consensus politique assez élevé, quand bien même, et vous avez raison de le noter, il y a eu énormément de polémiques au printemps, mais je crois que ça a été valable dans tous les pays. Et donc, il y en a eu moins proportionnellement en Suède que dans d'autres pays. Mais de fait, je ne crois pas que l'extrême droite soit nécessairement plus sanitariste que les autres.
Pardon, elle s'était pas dite favorable, cette extrême droite, au port du masque obligatoire, par exemple ?
Alors, il y a eu des signaux contradictoires également de ce point de vue, mais ça n'a duré qu'un temps. Mmh. Et là, actuellement, dans le paysage politique, c'est plutôt un certain silence qui prévaut. Au niveau local, hein, je vous le dis, des mesures sont prises. Et ça, c'est la principale nouveauté depuis le 17 octobre. Les gouvernements locaux, en consultation avec l'agence sanitaire et ses relais, ont des possibilités, et l'ont fait, de prendre des recommandations plus strictes en matière de regroupements familiaux, conviviaux, en matière d'événements culturels ou autres, de fréquentation des boutiques. Donc voilà, c'est pas pour autant qu'on voit, il y a par exemple très peu de gel hydroalcoolique qui est utilisé. Donc on n'a pas la même politique en termes de gestes barrières ou la même conception des gestes barrières qu'en France. Mais je ne pense pas que ça aura nécessairement un impact politique majeur. Évidemment, le gouvernement sera mis devant ses responsabilités, pour une part, lorsque la prochaine élection viendra. Mais pour l'instant, ça ne me semble pas être la préoccupation principale des Suédois, qui continuent à vivre. Je ne vais pas dire comme si de rien n'était, mais en
pas
tout
loin.
Cas, on est ouais. vraiment dans une situation très très différente de la France, alors même que vous disiez que la prévalence par habitant était à peu près la même.
Oui, par exemple, j'ai lu dans un article pour préparer cette émission que le port du masque commence, qui n'est pas du tout obligatoire, commence un tout petit peu à se répandre, et notamment dans les universités, par exemple.
Oui, on va le voir un petit peu, mais ça reste quand même minoritaire, marginal, et je pense que c'est réservé aussi à des personnes qui se sentent peut-être plus menacées directement par le virus. Pour ce qui est des maisons de retraite ou de l'équivalent des EHPAD que vous mentionniez, on est aussi très prudent, puisque c'est là où l'échec principal de la stratégie s'est trouvé, comme en France, la moitié de la mortalité durant la première vague. Donc on teste très très régulièrement le personnel, mais là encore, le port du masque n'est pas nécessairement obligatoire. C'est là quand même un révélateur assez fort, je crois.
Merci beaucoup en tout cas, Johan Okand, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales.
Zu Hause unter deinem Dach, mach die Kurve flach, in deinen vier Wänden, ob bei Tag oder Nacht, mach die Kurve flach. Draußen scheint die Sonne, aber heute bleib ich drin, weil ich auch an andere denke und nicht egoistisch bin, denn auch wenn ich gesund bin...
Et un grand merci à nos deux invités, Thomas Wider qui est avec nous en duplex de Berlin, un grand merci d'ailleurs au CDM et à Ludovic Piétenu qui a permis techniquement de faire cette liaison. Je rappelle Thomas Wider que vous êtes journaliste et le correspondant du journal Le Monde à Berlin. Également grand merci à vous Hélène Miard de la Croix. Je rappelle que vous avez coécrit avec Andreas Wirsching « Ennemi héréditaire » point d'interrogation, un dialogue franco-allemand. C'était chez Fayard et c'est donc avec ce groupe, cette musique sur le coronavirus, aplani la courbe du coronavirus qu'on se quitte. On poursuivra demain notre série consacrée à la gouvernance en temps de Covid. Mais tout de suite, c'est Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Brice, la défaite de Donald Trump a-t-elle la signification historique d'un recul mondial du populisme ? C'est la question que vous vous posez.
En septembre dernier, Matteo Salvini, à la fois vice-président du Conseil et ministre de l'Intérieur, a été lâché par ses alliés du mouvement Cinque Stelle. Celui qu'on donnait pour l'homme fort de l'Italie doit prochainement passer en procès pour abus de pouvoir et séquestration de personnes. La semaine dernière, Donald Trump n'a pas obtenu des électeurs américains sa reconduction à la Maison-Blanche. Or, le plus souvent, les présidents américains qui se représentent sont réélus. Tel fut le cas d'Eisenhower, de Nixon, de Reagan, de Clinton, de George W. Bush et d'Obama. Depuis la dernière guerre mondiale, seuls Gerald Ford et Jimmy Carter, ainsi que George Bush père, ont subi une semblable défaite. Or, l'Italie est considérée comme le laboratoire politique de l'Europe, le pays où s'y déroulent les expériences politiques nouvelles, pour le meilleur comme pour le pire, Mussolini, Berlusconi. Les États-Unis, de leur côté, sont regardés depuis Tocqueville comme le pays où les évolutions de la société et leur traduction politique anticipent sur celles du monde entier. D'où la question, la chute de Salvini l'an dernier et celle de Trump cette année signe-t-elle le refus de la vague, le reflux de la vague populiste? Les dirigeants aussi déconcertants que Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan, Viktor Orban, Narendra Modi, Nicolas Maduro, Jair Bolsonaro, que cette vague populiste a porté au pouvoir, vont-ils subir bientôt le même désaveu électoral? Après une crise de l'illibéralisme, les démocraties vont-elles renouer tranquillement avec leurs usages habituels, un centre droit et un centre gauche, d'accord sur l'essentiel, se disputant un pouvoir plus apparent que réel? Si tel était le cas, on pourrait considérer que le temps des hommes forts, promettant à leur peuple de reprendre le contrôle, n'aurait été qu'une parenthèse. Est-ce bien l'hypothèse la plus probable? Pour qu'elle se vérifie, il faudrait que les causes qui ont produit l'écartèlement social, politique et culturel de nos démocraties aient disparu. Le populisme, en effet, on le sait, surfe sur la polarisation idéologique et l'exploite à son profit en l'amplifiant. Les hommes forts du populisme ne considèrent pas leurs opposants comme des concurrents, mais comme des ennemis du peuple. Et lorsqu'ils le peuvent, comme Erdogan ou Poutine, ils les font d'ailleurs jeter en prison, sort que Trump avait promis à Hillary Clinton, souvenons-nous. Et c'est bien pourquoi d'ailleurs, ces hommes forts sont encouragés et parfois soutenus de l'extérieur par les États adversaires. La première déclaration de Joe Biden, une fois son élection assurée, a été, je cite, « Il faut arrêter de traiter nos opposants comme des ennemis ». Le rôle historique des dirigeants qui succèdent aux leaders populistes sera en effet de réconcilier des sociétés fracturées et dans certains cas au bord de la guerre civile. Sinon, les causes qui ont provoqué les conditions d'émergence du populisme perdurant, de nouvelles figures l'incarnant surgiront.
Plusieurs analystes, Brice, dès ce week-end, ont mis en garde ceux qui triomphaient un peu trop tôt après la défaite de Donald Trump.
Oui, c'est notamment le cas du politologue turc Zeynep Tufekci. Il estime qu'Erdogan ne subira pas de sitôt le sort de Trump pour une raison basique. Trump est un politicien de hasard, une vedette de télévision sans aucune expérience politique antérieure, que l'exercice du pouvoir d'ailleurs a semblé ennuyer. Erdogan, au contraire, est un animal politique doté d'une très grande expérience, et Tufekci d'avertir que toutes les conditions vont demeurer en place aux États-Unis pour que dans 4 ans, un politicien talentueux cette fois se fasse élire pour, je cite, « poursuivre le Trumpisme sans Trump ». Il a même des candidats en tête. Josh Hawley, sénateur républicain du Missouri et le plus jeune membre de cette haute assemblée lors de son élection en 2018, et Tom Cotton, qui vient d'être réélu haut la main sénateur de l'Arkansas. D'autres comme Eric Posner, professeur à l'Université de Chicago et auteur d'un livre récent intitulé en anglais « Le livret du démagogue », estime que Biden va se casser les dents sur les différents pièges laissés derrière lui par Trump. Les républicains vont probablement conserver leur courte majorité au Sénat. La Cour suprême compte désormais 6 juges conservateurs sur 9. L'appareil judiciaire lui-même a été truffé de juges fédéraux hostiles aux démocrates. Et nombre d'agences fédérales ressortent démoralisées de 4 ans de guéguerre menée par l'exécutif contre la plupart d'entre elles. Par ailleurs, les mensonges proférés par Trump et ses relais sur les réseaux sociaux à propos d'un soi-disant trucage des élections ont semé un doute sur la légitimité de son successeur à gouverner le pays. Enfin, le Parti démocrate est aujourd'hui une coalition instable de modérés, comme Biden et Harris eux-mêmes, de radicaux et d'indépendants. Il sera difficile de concilier ces différentes tendances tout en réparant les fractures provoquées au sein de la société américaine par Trump. Pour toutes ces raisons, écrit Posner, Biden ne bénéficiera pas de la période dite de lune de miel traditionnellement accordée au président nouvellement élu.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture et l'application Radio France. On vous retrouve demain.